Je le disais en tout début d'émission, ce matin on parle également de ces troubles obsessionnels. Ou alors, lorsqu'on est maniaque et qu'on en souffre donc quotidiennement, on va essayer d'y voir plus clair. Pourquoi cela arrive? Comment y faire face? Et surtout, pourquoi quelles peuvent en être les causes? On en parle ce matin avec notre spécialiste en psychiatrie, Dr Atman Lorabi. Bonjour.
Bonjour Mariam, et ravi d'être avec vous sur les ondes de Métiers en Radio. Et bien sûr, j'adresse mes salutations à nos fidèles auditrices et auditeurs.
Et ils sont toujours aussi nombreux à ce rendez-vous quasi hebdomadaire, tous les jeudis matins avec vous donc. Vous êtes spécialiste en psychiatrie et secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. Alors je le disais d'abord, lorsqu'on dit qu'on est maniaque, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ?
Merci beaucoup pour la question, parce que c'est vrai qu'en langage courant, oui, quand on parle de quelqu'un qui a des manies ou qui est maniaque, cela diffère totalement du langage psychiatrique. Mmh. Quand on parle de manie au langage courant, on désigne plutôt une personne qui va avoir des caractéristiques obsessionnelles, sachant que en psychiatrie, quand on parle de manie, c'est plutôt l'euphorie, la désinhibition, l'excitation psychomotrice. Donc, on va plutôt utiliser le terme de personnalité obsessionnelle, et c'est une personnalité qui va être régie par plusieurs éléments, et comme tout trouble de la personnalité, le premier élément le plus important, c'est une certaine rigidité dans le fonctionnement, mais qui va être caractérisée par une importance excessive qui va être donnée aux détails, aux règles, à l'organisation. On va avoir des gens qui vont être extrêmement, qui vont être extrêmement à cheval sur leurs règles de fonctionnement, ouais, sur les valeurs, sur la morale, sur l'éthique. Ce sont des personnes qui vont aussi avoir une certaine tendance à être, pardonnez-moi l'expression, un peu têtu, c'est-à-dire de toujours faire les choses de la même manière. Et c'est ainsi qu'on va définir cette personnalité obsessionnelle avec des thématiques qui reviennent souvent. Les thématiques, quand on parle d'ordre, de détails, de règles, etc., les thématiques qui reviennent souvent, c'est le rangement, oui, c'est la propreté, oui, c'est l'extrême organisation, à tel point que ça en devient presque insupportable. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est pas rare, c'est pas du tout rare. Les estimations de la prévalence de ce genre de trouble de la personnalité disent que c'est aux alentours de 5%. Donc c'est vraiment pas quelque chose de rare, et vraisemblablement, je pense que nous tous, on connaît au moins des personnes dans notre entourage, que ce soit familial ou professionnel, etc., qui peuvent répondre à ce genre de caractéristiques.
Exactement. Alors, ces signes, ces symptômes qui devraient normalement nous en alerter quand c'est sérieux, on va dire, docteur Lorabi.
Alors, c'est bien souvent les personnes qui ont ce genre de caractéristiques, peut-être c'est pas elles qui vont en souffrir les premières. Très souvent,
c'est vraiment l'entourage, oui, oui.
Voilà, l'entourage aussi bien personnel que professionnel, parce que ça va poser plusieurs soucis. Alors, par exemple, au niveau de la vie familiale, on va avoir une personne, c'est souvent un homme, mais on va avoir une personne qui va être trop à cheval sur les règles, trop stricte, extrêmement rigide, toujours à vouloir tout planifier à l'avance, extrêmement intolérant aux choses de dernière minute, avec un souci excessif du détail, avec une tendance, je le disais, au perfectionnisme. Si bien, c'est tellement exact que je vous donne un exemple. Par exemple, voilà, le fait de ranger la maison, je donne un exemple un peu bateau, de ranger la maison et de la garder propre. Enfin, si vous voulez, l'intérêt du rangement, c'est que c'est qu'on va avoir un lieu de vie où on peut s'asseoir, on peut profiter de notre lieu de vie, alors que justement les personnes qui vont avoir ce souci du détail de manière pathologique et ce trouble de la personnalité, elles voudront même pas profiter de de vie, c'est-à-dire il faut maintenir la chose rangée pour la maintenir rangée et non pas pour en profiter. C'est un peu ça, si vous voulez, l'illustration un peu un peu banal hein, de ce genre de trouble. C'est que les détails sont tellement importants que qu'on perd de vue l'intérêt de l'activité hein, qu'on est en train de faire de manière extrêmement détaillée. Au niveau du travail, les choses font que on aura beaucoup de mal à collaborer avec ce genre de personnalité parce que ce sont des personnes qui ont énormément de mal par exemple à déléguer hein, quand elles sont dans une situation d'autorité hiérarchique, elles ont énormément de mal à déléguer, elles ont énormément de mal à ce que les choses se fassent différemment de ce que elles ont l'habitude de faire. Ça c'est vraiment un point crucial dans ce genre d'interaction. Et puis surtout, toujours l'accent sur le perfectionnisme. Mais quand je dis le perfectionnisme, c'est le perfectionnisme vraiment à outrance. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire qu'on ne s'accorde aucune marge d'erreur. On a le droit à aucune erreur. Toute petite erreur ou n'importe quel petit détail qui n'est pas dans les clous et qui n'est pas conforme à ce qui est attendu, devient tout de suite un immense problème et source quelquefois de conflits au niveau du travail. Donc, c'est, si vous voulez, c'est vraiment les personnes qui vont être autour de ce genre de profil qui vont être en souffrance. Et très souvent, ce sont ces personnes-là, justement, de l'entourage, qui vont sensibiliser la personne sur le caractère excessif de ses préoccupations et peut-être le pousser et l'encourager à aller consulter, histoire de se faire aider par un professionnel.
Alors justement, docteur Lorabi, pourquoi ne sommes-nous pas concernés de la même manière et quelles peuvent en être les causes, finalement?
Alors, le plus souvent, c'est quelque chose qui est inhérent un peu à l'histoire de chacun, comment on s'est développé, quel était notre rapport à l'autorité, notamment à l'autorité paternelle hein, pendant notre enfance, quel était le poids de tous ces détails, quel était le poids de toutes ces exigences et ce perfectionnisme dans le cadre de notre éducation. Et tout comme ça questionne forcément aussi le rapport qu'on a pu tous avoir quand on souffre de ce genre de trouble, le rapport qu'on a pu avoir à nos parents, parce que il est coutume de dire que, si vous voulez, l'intérêt pour la personne qui souffre de ces troubles de répéter toujours les mêmes vérifications et d'être dans cette rigidité de fonctionnement, tout ça, ça a une fonction de réassurance. Hein, le fait d'être dans ce contrôle extrême du moindre petit détail et le fait que les choses doivent être exactement comme nous, on pense qu'elles doivent être et à leur place, c'est quelque chose qui amène un peu de stabilité, entre guillemets, dans le monde. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu psychiquement parlant par les gens qui en souffrent. Et si vous voulez, ça renvoie aussi également à une certaine intolérance au risque. Hein, c'est-à-dire que ce sont souvent des personnes qui ont eu une vie qui a été rythmée par beaucoup de prudence, par beaucoup de précautions. Et je dis prudence et précaution à outrance. Hein, et c'est ce qui fait que dans notre développement, parce que quand on parle de troubles de la personnalité, c'est des choses qui vont se construire avec nous au cours de notre histoire, qui vont commencer à apparaître quelquefois assez tôt, au début de l'adolescence, puis avec une certaine aggravation au passage à l'âge adulte. C'est vraiment ça la trajectoire le plus souvent observée. Si bien que justement, ça, cette trajectoire, elle a une implication même au niveau des thérapeutiques, parce que ces troubles qui sont liés à la personnalité obsessionnelle sont extrêmement difficiles à traiter. Alors certes, il y a des médicaments qui peuvent un petit peu aider à diminuer cette angoisse qui est interne, qui est propre au sujet, et qui va peut-être l'aider à lâcher prise concernant justement le contrôle des détails et le contrôle de l'environnement. Mais les médicaments, bon, somme toute, ont une efficacité extrêmement mesurée. Et justement, le traitement de choix reste une thérapie d'inspiration psychodynamique, c'est-à-dire tout ce qui est psychanalyse ou des thérapies s'inspirant de la psychanalyse qui vont viser justement à reconstituer l'histoire de la personne, à ce que la personne puisse justement prendre conscience des éléments clés certains qui se sont passés pendant son enfance, pendant son adolescence, bref, pendant son développement, et qui l'ont amené justement à sentir ce besoin excessif de contrôle. Et ça, c'est vraiment le traitement, je dirais, aujourd'hui, qu'on sait être le plus efficace. Et malheureusement, justement, quand on parle de thérapie d'inspiration psychanalytique, je veux juste le rappeler, on est en train de parler de thérapies qui peuvent s'étaler sur des années.
Sur des années, absolument.
Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est souvent très profondément enraciné chez la personne et qu'il convient vraiment de déconstruire en reprenant absolument toute son histoire, quasiment depuis la naissance.
Oui, et ces personnes-là, vous avez parlé de prise de conscience, est-ce qu'elles en sont conscientes finalement? Est-ce qu'elles veulent s'en sortir? Ou est-ce que c'est pour elles, voilà, se lâcher prise est quasi impossible?
En fait, les personnes, une fois qu'elles sont alertées ou une fois qu'elles sont confrontées à toutes les difficultés relationnelles qui peuvent intervenir au niveau du travail et de la vie professionnelle, c'est là qu'elles vont prendre conscience. Et puis, le plus souvent, ce sont des personnes qui, une fois que la prise de conscience a été effectuée, arrivent à identifier qu'elles en souffrent, qu'elles en souffrent énormément. Donc, non, on n'est pas devant un cas de trouble de la personnalité où la personne n'est absolument pas consciente et ne veut absolument pas changer. Là, très souvent, chez les patients, il y a une véritable volonté de changer. Et c'est ce qui est un petit peu frustrant parce que, justement, c'est le plus souvent des prises en charge un petit peu délicate et presque toujours longue, avec des petites rechutes et des petites exacerbations.
Et justement, en parlant de petites rechutes, que diriez-vous à toutes ces personnes qui veulent justement s'en sortir, qui ont du mal? Quels seraient vos conseils, donc, pour toutes ces personnes-là?
Mon conseil, c'est d'abord d'être extrêmement vigilant, parce que c'est vrai que les personnalités obsessionnelles, bon, quand c'est pas extrêmement grave, c'est quelque chose qui est plutôt valorisé dans notre société. Hein, l'ordre, les règles, les valeurs, la structure, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est valorisé. Mais on néglige souvent la souffrance intrapsychique de la personne qui va peut-être l'amener à avoir des conduites, entre guillemets, un petit peu dangereuses pour se soulager, hein, notamment les abus d'alcool, les abus de substances qui sont plutôt apaisantes, hein, mais qui peuvent être des drogues ou des choses comme ça, ou même tomber dans l'abus de certains types de médicaments qui visent à réduire l'anxiété. Ça, c'est vraiment le piège, et c'est vraiment ça le message principal, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant pour d'abord ne pas aggraver la situation, ne pas aggraver son état de santé, et puis ne pas du tout hésiter à consulter et à reconsulter, tout en sachant que voilà, le chemin va être semé d'embûches, c'est sûr, mais il y a une vraie possibilité d'amélioration au bout du chemin.
Vous étiez avec nous depuis Casablanca, docteur Hartmann. Laura Ville, vous êtes spécialiste en psychiatrie, vous êtes également secrétaire générale de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin sur Médien.
Au revoir.
À très bientôt. Et c'est un entretien, bien évidemment, réécoutable sur notre site médien.com.